Pour cela, nous sommes vos ennemis. Nous sommes contre vos idées, contre vos pensées, vos obscénités, votre chrétienté, votre violence. Nous refusons toute idée d'une vie qui serait fatalement réduite au minimum vital.
Un mot trop, et c'est un mot qui va en orange.
Les flics tabassent, sortent le P38 et les flics qui flinguent de glace.
Les flics, la police, les vices.
Et par des keufs se font paner, c'est connu, dans le Parisien t'as que les histoires comme as.
La route du guette, mec, les flics aussi.
Vois du rouge, aussi rouge que vos bavures.
J'ai mal au cœur quand un frère meurt. Pour eux, un accident de travail, à t'en faire peur de sortir sans voir quoi.
Yo, bonjour à toutes, vous êtes bien sur Radio Dio 89.5 dans l'émission numéro 0. L'émission elle est rediffusée à 5h le même jour, et voilà. Le numéro 0 aussi c'est un site internet, un site d'information participatif dans lequel chacun et chacune peut publier des informations. Voilà, le site du coup... où vous pouvez publier toutes ces informations, c'est lenumero0.l'autre.net. Et je vais vous présenter du coup vite fait le sommaire de cette émission. Dans cette émission, on va pas faire commencer par des petites brèves du désordre local. Après, on enchaînera avec un petit point pollution au PCB là dans la plaine. Un petit point pour annoncer le No Border à Calais. Et puis après, sont avec nous des étudiants de la fac qui vont continuer à nous parler un petit peu là, de la situation de ce qui se passe à Trèfle-Sillery et notamment de la répression organisée vous verrez quoi.
Les méchants quoi.
Et on finira par un petit point agenda, tout ça agrémenté par un petit peu de musique. Voilà, du coup, tout de suite, les brèves du désordre local.
Et oui, à présent, passons en revue les brèves du désordre local. Et notamment celui qui a eu lieu au cours du mois de mars dernier. Chaque jour, généralement dans la rubrique faits divers, la presse locale rend compte des actions des combattantes invisibles de l'anti-France et de leur déboire. Et souvent, il n'est même pas besoin de savoir lire entre les lignes. Mais qu'est-ce que l'anti-France, me direz-vous ? Eh bien, l'anti-France n'existe pas, elle est dans l'air, c'est pourquoi elle est partout. Elle n'a pas de revendication car elle est encore vivante. Et l'anti-France, en fait, c'est une section de l'anti-monde. Et pour commencer, parlons de cette activité de service public qui consiste à produire des ruines et des cendres. La vallée de l'Ondraine brille de mille feux, troisième partie. En effet, du vendredi 27 février au dimanche soir au 1er mars, c'est le troisième week-end de suite où la zone est dans la tourmente. Le vendredi soir, un véhicule est incendié au Chambon, une voiture de flic qui passait par là repère deux personnes qui s'enfuient. Les keufs en attrapent une quand même. Dans la nuit de vendredi à samedi, à Solors cette fois, une poubelle est incendiée qui noircit la façade d'un immeuble avant d'être éteinte. Les flics comme les pompiers refusent à présent de donner les chiffres de leur intervention pour cette zone. Mais un bilan non officiel indique qu'au moins 10 voitures ont cramé ce week-end, dont 7 à la Ricamari et 2 à Firmini. Une semaine plus tard, le 6 mars, au matin à Rouen, une maison en rénovation est emportée par les flammes. Les pompiers constatent qu'il y a plusieurs départs de feu dans la maison. Le 7 mars, à Firmini encore, à 2h du mat, 4 voitures et une camionnette comprenant des vitrines sont incendiées. Et le lendemain soir, 5 voitures dans un garage de Villars partent en fumée. Dans la nuit de mardi à mercredi 11 mars, 3 voitures sont incendiées dans le quartier de Solor. La famille, c'est une valeur qui compte surtout à Rouen. Dans l'après-midi de ce même mercredi, un incendie touche les entrepôts vides d'une ancienne usine de bonneterie. Quelques jours plus tard, un père va balancer son fils de 13 ans, qui avait eu l'imprudence de lui parler de ce qu'il avait fait dans cette ex-usine. Ce père, pour donner une leçon aux enfants, va donner aux flics les noms de son fils et de 5 de ses copains et copines, âgés de 13 à 14 ans. Dans la nuit du vendredi à samedi 14, ce sont 6 voitures qui crament sur un parking de Rive-de-Gier, sur le parking de la gare. Le 17 mars, à la gare du Clapier, un contrôleur se fait frapper plusieurs fois au visage par la personne à qui il était en train de mettre une amende, car il n'avait pas de ticket. Le contrôleur se retrouve à l'hôpital et sa victime révoltée réussit à s'évanouir dans la nature. Malheureusement, il sera suffisamment imprudent et se fera arrêter le lendemain dans cette même gare du Clapier car il avait été identifié par les caméras de vidéosurveillance de la gare. La lutte armée paye, on ne le dit que trop peu, et parfois même un peu. Et le mardi 24 mars, une voiture de keuf grille un feu rouge avec force sirène et gyrophare au croisement des boulevards Jeannin et Thiers, mais une voiture ne peut pas s'arrêter à temps et percute les flics. Le résultat, 4 à 1, 4 flics et le conducteur de la voiture se retrouvent à l'hôpital. Toujours ce mardi 24, à Firmenich, le gymnase des Bruneaux est incendié pour la 3e fois depuis le début de l'année. Les 2 premières fois, c'était en janvier. Cette fois, les incendiaires ont brisé en plein après-midi les vitres basses d'un local et se sont servis des tapis comme combustible. Après les joies du feu, passons à l'univers merveilleux du monde du travail et de ses petites vicissitudes. Une partie que l'on pourrait nommer « vivre en combattant » ou « mourir en travaillant ». À Saint-Cham, le 2 mars, au début du mois, un camarade éboueur se coince la main dans la poignée d'une benne et il est happé puis avalé par le camion benne. Il lui faudra plusieurs heures pour le sortir de là et le transporter ensuite à l'hôpital pour une blessure à la main. Le jeudi 5 mars, une manif convergence des luttes rassemble les personnels de l'hôpital contre la loi Bachelot et les gens de l'université contre la loi Pécresse. Vériplast, une entreprise spécialisée dans l'emballage plastique, possède 4 sites dans la Loire et la Haute-Loire. Le mercredi 11 mars, ces 4 sites se mettent en grève illimitée pour des augmentations de salaire et la non-remise en cause par la direction des RTT. À Riorges, près de Rouen, le mardi 17 mars après-midi, dans l'entreprise Big Mat, un homme de 41 ans est pris en sandwich entre 2 chariots élévateurs. Il est grièvement blessé et transporté à l'hôpital. Le 25 mars, à la société Manito Wok de Saint-Nizier sous Charlieu, qui avant s'appelait l'entreprise Potin et qui fabrique des grues, une centaine d'ouvriers et d'ouvrières bloquent le site et mettent en place un barrage filtrant sur la départementale voisine. Ils luttent contre le plan de restructuration. Plan de restructuration, vous savez, c'est l'autre nom pour dégraissage. Ils prévoient pour le site de Saint-Nizier de virer 135 personnes sur les 400 qui sont présents, et ce dans les plus brefs délais. Le samedi suivant, une grosse manif de 700 personnes se sera rassemblée à Saint-Nizier contre ce plan. Toujours le mercredi 25, à la société Antonin, cette fois basée à la Roche-la-Molière et à Andrézieux, et qui fabrique des sièges de voitures et de trains. Les salariés se lancent dans une grève illimitée. Ils se battent pour une augmentation des salaires de 30 euros par mois, et pour une prime, et pour l'assurance santé. Sur le piquet de grève, un homme est renversé et blessé, car il a été renversé en fait par un camion de livraison qui a forcé le passage. Le 27 mars, les sites étaient toujours bloqués. Et pour finir, un petit bêtisier, car tout n'est pas forcément sérieux dans la presse locale. On savait déjà que Saint-Étienne était une ville d'art et d'histoire, mais maintenant, même si ça se voit pas trop en fait, mais depuis le 6 mars dernier, la ville a obtenu officiellement par l'État d'un nouveau label. c'est le label, pas un label bio ou le label rouge, non, un truc beaucoup plus évident qu'on se demande pourquoi il a fallu autant de temps pour obtenir. Ce label, c'est officiellement Saint-Étienne, une station de tourisme. Une station de tourisme, Saint-Étienne. Ouais, ça fait rêver. Perso, j'espère que Saint-Étienne ne sera jamais réellement une ville de tourisme, car elle deviendra vite une ville-musée en même temps qu'une ville-centre commercial à ciel ouvert, comme ça peut être déjà le cas à Lyon, à Barcelone, à Paris, etc. Allez, c'est fini pour cette semaine, on recommence la prochaine fois, mais dans pas trop longtemps. Mais on n'est même pas obligé d'attendre jusque-là, parce que en fait, tout ça, c'est arrivé près de chez vous.
Et n'oublie pas que la crise, c'est toi si tu ne travailles pas.
Tout le monde à l'usine, 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 tout le monde à l'usine.
Yo, après les brèves du désordre, du coup on enchaîne là sur un petit point pollution au PCB. En effet, depuis quelques mois, dans la plaine du Forez, aux alentours de Saint-Cyprien, on parle de pollution au PCB. Les PCB ou polychlorobiphényl, rappelez-vous, servait de liquide réfrigérant dans les transformateurs électriques ou était encore utilisé comme lubrifiant dans des applications aussi variées que les plastiques, les peintures, l'encre ou le papier. On les appelait en France, par exemple, pyralène. Je parle à l'imparfait parce que depuis 1987, la production et la vente des PCB sont interdits en France. Alors, à Saint-Cyprien, dans la plaine, là, l'élément déclencheur de cette pollution au PCB serait l'incendie le 28 août 2008 de Vital Recyclage, une entreprise spécialisée dans le recyclage du bois. En effet, avant Vital Recyclage, il y avait une société qui entreposait des transformateurs électriques, dont le pyralène est l'un des composants. C'est seulement en décembre 2008 qu'on va commencer à en parler sérieusement et publiquement, avec la découverte d'un premier cas de contamination au PCB dans une ferme avoisinante Saint-Cyprien. Les 85 bovins concernés vont être mis sous séquestre en attendant l'abattage. En février, dans un périmètre de 2 km autour de l'incendie, c'est en tout 19 exploitations qui vont être considérées comme contaminées. En mai dernier, le 13 mai, à la suite des déclarations d'un collectif d'habitants et d'habitantes de Saint-Cyprien qui s'indignent qu'on leur dise pas plus de choses que genre ça serait pollué ou je sais pas quoi. Du coup, le 25 mai 2009, il y a un arrêté préfectoral qui est pris, du coup lundi dernier, et qui a fixé une campagne d'investigation consistant à contrôler les exploitations laitières et allaitantes dans les 5 km autour de l'incendie et les élevages allaitants au-delà de 5 km. C'est en tout 40 communes qui sont placées sous surveillance et qui sont considérées à risque, notamment Saint-Cyprien, Andrézieux-Boutéon, Bonson, Craintilleux, Suresle-Comtal, Vauchette. Depuis le 25 mai, le premier échantillonnage a laissé apparaître que 7 exploitations allaitantes dont les produits sont destinés à la commercialisation de viande sur 10 prélevés présentaient des teneurs en PCB 2 à 3 fois supérieures aux normes. Moi, ça m'amuse quand même de souligner que dans cette histoire, jusqu'à maintenant, les scientifiques n'ont fait que des prélèvements sur les animaux et qu'il n'y a aucun prélèvement sur les animaux. On s'est bien gardé de faire des prélèvements sur les humains. Et il faut dire que les humains qui ont demandé qu'on leur fasse des prélèvements pour voir si, s'ils avaient été infectés ou pas, on leur a dit que ça coûtait 1200 euros. Donc, il est donc conseillé dans les environs de Saint-Cyprien de ne pas manger les animaux et produits de basse-cour, y compris les œufs, et plus généralement tous les produits issus d'animaux ayant leur parcours sur la zone à risque, alimentés avec des végétaux en place à la date du 21 août 2008, date de l'incendie de la société Vital Recyclage. De même, naturellement, la consommation du gibier chassé sur cette zone est interdite. Soit dit en passant, je pense que ça fera de mal à personne un petit régime végétarien. Apparemment, les scientifiques et les spécialistes disent que les fruits et légumes, dès lors qu'ils ont été soigneusement lavés, respectent les normes en vigueur et peuvent donc être consommés sans problème. Alors moi, après avoir pris connaissance de toutes ces infos, notamment dans Forêts Info et dans la tribune Le Progrès, j'ai fouiné un peu sur Internet et dans mon cynisme, m'a fait bien rire de découvrir que Monsanto avait été un des leaders mondiaux de la production de PCB. Et comme à son habitude, la compagnie avait garanti son quasi-monopole sur les PCB par un brevet qui lui permettait de vendre des licences de production. En 1935, la firme américaine Monsanto rachète la Swan Chemical Company qui, à Anniston, aux États-Unis, fabrique des PCB. En 1937, déjà, un des docteurs de son service médical rend une étude évoquant les dangers liés aux PCB. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas ça qui va les arrêter d'en vendre ni d'en produire. Entre 1929 et 1971, à Anniston, c'est plus de 300 000 tonnes de PCB qui sont fabriquées. Et sur ce total, 810 tonnes sont déversées dans les canalisations et 32 000 tonnes de déchets contaminés sont déposées dans une décharge à ciel ouvert en plein cœur de la ville. En 1966, un scientifique du nom de Ferguson met des poissons dans les criques aux alentours de l'usine. Ceux-ci sont tués au bout de 3 minutes par le PCB. D'après lui, même dilué 1000 fois, ce produit est encore nocif pour tuer les poissons. Bien sûr, aucune réaction de Monsanto. En 1967, une étude scientifique d'un Suédois révèle que tout l'environnement avait été contaminé, et les gens aussi. À ça, Monsanto répond « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre un seul dollar dans nos affaires. » Plus tard, ils feront encore plus cyniques en disant « A-t-on fait des choses que l'on ne ferait pas aujourd'hui ?» Bien sûr, mais ce n'est qu'un petit détail dans une longue histoire. Et si vous remettez les choses dans leur contexte, je pense qu'il n'y a vraiment pas de honte à avoir. C'est vrai que massacrer l'environnement et tuer des gens, c'est pas bien grave. Ce qui serait plutôt grave, ça serait une petite réduction des bénéfices ou je sais pas quoi. Aux États-Unis, c'est seulement du coup en 1977, c'est-à-dire plus de 20 ans ou 20 ans après les premières études prouvant qu'il y avait des effets négatifs, que la production et la vente des PCB vont être interdites. Au passage, en France, la production et l'utilisation seront interdites seulement 10 ans plus tard. Enfin, comble du comble, en 1993, c'est-à-dire 27 ans après les études alarmantes c'est seulement du coup 27 ans après que la population est mise en garde de ne pas consommer les poissons de la rivière et de s'éloigner de l'usine. C'est quand même un comble, quoi. Là encore, réaction du directeur de l'usine, à qui on lui demande pourquoi les résultats d'études n'avaient pas été communiqués. Il répond « Pourquoi l'aurait-on fait ?» Alors, dans les années 90, quand même, va se monter une action collective en justice par 3516 plaignants victimes de cancer ou de retard de développement dû aux pollutions aux PCB contre Monsanto. Mais c'est seulement le 23 février 2002, c'est-à-dire 65 ans après les premières études déclarant les risques pour la santé, que le jury déclare Monsanto et sa filiale Solucia coupables d'avoir pollué le territoire d'Anniston et le sang de sa population avec les PCB. Les dommages et intérêts sont fixés à 700 millions de dollars. Tout ça pour dire que quand on parle de trucs cancérigènes, moi j'ai du mal à faire confiance aux institutions, aux scientifiques et encore moins aux industriels. Pour moi, ils sont tous et toutes complices. Alors pour finir, je voulais finir par une petite anecdote que j'ai trouvée sur Internet. En effet, depuis l'adoption par l'Union européenne des normes de l'Organisation mondiale de la santé sur la concentration admissible de PCB dans les poissons, on s'est rendu compte, d'un seul coup, que tous les fleuves français en regorgeaient. Ainsi, en 2007, on s'est indigné de découvrir que le Rhône était une vraie poubelle pour les industriels et que, notamment, il était tapissé de PCB. Alors d'un coup, en gros 20 ans après l'interdiction de la vente et de la production en France, on a annoncé aux gens qu'il fallait qu'ils arrêtent de manger des poissons pêchés dans les fleuves et pour avoir bonne conscience, on l'a même interdit. On a même annoncé la création d'un pôle de recherche au service de la dépollution, le PCB Accéléra, piloté par les sauveurs de l'humanité, Suez Environnement. Allez hop, on leur file tous et toutes plein d'argent, comme ils sont trop cool, pour qu'ils nous sauvent la vie, et qu'ils sauvent la vie à Maman Nature. Et puis là dernièrement, tout dernièrement, là en mars ou mai dernier, là, on a entendu parler d'un marché européen de dépollution. Le chef du pôle de compétitivité PCB Accéléra estimerait l'affaire à 10 milliards d'euros. C'est beau la vie, on peut sauver la planète et se faire plein de thunes, et c'est toujours les mêmes qu'on prend pour des cons.
Maintenant, nous allons enchaîner en parlant du campement No Border qui se passera à Calais du 23 au 29 juin. Donc, les camps No Border, c'est des campements qui existent depuis quand ? La fin des années 90, je pense, dans divers coins d'Europe et d'ailleurs, et qui souvent se passent dans des endroits qui sont problématiques par rapport aux questions de migration et de frontières, et essayent de non seulement faire se rencontrer plein de gens qui bougent sur ces questions, et puis travailler un peu sur des problématiques locales. Donc
là, dire que No Border en anglais, ça veut dire sans frontières.
Voilà, exactement. Et donc là, pourquoi Calais ? Et ben parce que à Calais, depuis le milieu des années 90, il y a des dizaines de milliers de migrants qui sont passés par là pour, dans le but d'atterrir en Grande-Bretagne. Et donc en attendant d'arriver jusqu'en Grande-Bretagne, et ben ils galèrent dans la région de Calais. Et donc c'est des gens qui ont fui leur pays en général pour des questions économiques et des questions de guerre. Donc voilà, un peu poussé par le système capitaliste et guerrier, on peut le dire, à quitter chez eux, à essayer de trouver un endroit un peu moins horrible où vivre. Et donc à Calais, ben, ils se retrouvent sans argent, réprimés par la police, sans aucune ressource, etc. Et en 99, la Croix-Rouge avait ouvert un centre, le centre de Sangatte, un centre d'accueil. Donc, quoi qu'on en pense, c'était quand même un endroit où les gens pouvaient se réfugier, manger, dormir, etc. Et puis, la France et la Grande-Bretagne ont fait fermer ce centre. Donc, ils n'ont absolument réglé aucun problème comme ça, vu qu'il y a toujours autant de gens, mais qui zonent dans un endroit qui s'appelle la jungle, là-bas, qui est une espèce de friche... voilà, de friche dans laquelle ils se planquent et ils essayent de survivre. Et bah, ils subissent des trucs assez terribles de la part de la police. Ils sont régulièrement brutalisés, battus, arrêtés, enfermés dans le centre de rétention administrative du coin. Leurs abris et leurs quelques affaires sont régulièrement brûlés par la police toujours. Et bah, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens localement, enfin, je ne sais pas si c'est beaucoup, mais en tout cas des groupes et des individus localement qui essayent de les soutenir de diverses manières, parfois en les logeant, parfois en les nourrissant, etc. Et eux, bah, ils subissent aussi une répression croissante de la part de l'État. Donc le réseau No Border a décidé de faire un campement là-bas pour mettre en lumière tout ça. Voilà.
Oui. Moi,
je voulais ajouter que... Ouais, je voulais ajouter que dernièrement dans l'actualité, là dans les derniers mois, on a vachement entendu le ministre là, de l'intégration, Éric Besson, qui disait qu'il voulait en finir avec Calais, qu'il voulait régler le problème. Et apparemment, il y a des gros enjeux entre les gouvernements anglais et gouvernements français et qui voudraient essayer d'en finir avec cette zone en niant totalement le problème et en essayant juste de vider la zone, je pense, avec des sortes de vues militaires un petit peu derrière de dégager un petit peu les gens, quoi. Du coup, ça, je trouve que ça renforce encore plus, avec l'actualité, l'enjeu de faire un camp là-bas pour contester tout ça.
Oui, les enjeux. Surtout que très souvent, ceux qui sont à Calais, c'est des gens pas très fréquentables qui viennent d'Afghanistan et tout ça. Donc, et que l'un des buts de l'Union européenne, c'est de ce qu'ils appellent externaliser les frontières, c'est-à-dire que tous les gens, ils butent dans l'Europe forteresse, genre en Asie, en Afrique, etc. Et que surtout, ils rentrent pas. Et là, bah, Calais, c'est en plein cœur de l'Europe. Donc ça leur fout vraiment les boules.
C'est toujours une histoire de nazis.
Bref, donc le réseau No Border, on peut dire que pour cette histoire de camp, il regroupe des personnes militants, militantes de France, de Belgique et aussi britanniques, que le but du camp, il y a plusieurs buts à ce camp. La volonté de mettre en lumière la situation à Calais et dans le nord de la France, réinciter sur la situation des migrants à ce niveau-là, construire des liens entre les communautés de migrants, parce qu'effectivement, plus les gens sont isolés, et plus ils sont vulnérables, et puis développer aussi des liens entre les gens qui soutiennent les migrants, et pour les mêmes raisons. Et autre aspect, c'est de défier les autorités sur le terrain pour protester contre la répression croissante de ces mêmes migrants et des personnes qui les soutiennent. Voilà, le but du camp, comme son nom l'indique, c'est la liberté, la revendication de la liberté de circulation pour tous et toutes, la fin des frontières et de la fin dans le monde et tout ça, et les contrôles migratoires.
Voilà, donc pour trouver plus d'infos, comme d'habitude, c'est Internet. Donc il y a un site, entre autres, que vous pouvez consulter, c'est calenoborder.eu.org. Donc calenoborder, tout attaché, .eu.org.
Moi, je vous conseille particulièrement aussi le site de Dissidence Nord ou Dissidence Nordiste, qui sont des gens qui ont l'air de se bouger pas mal, notamment par rapport à ces questions-là, et qui vont régulièrement, rencontrent régulièrement du coup les Afghans qui sont là-bas sur le terrain, et qui racontent pas mal d'histoires intéressantes qui illustrent un peu la situation locale là-bas de rafles et de trucs comme ça dans leur site. Du coup, je vous invite vraiment à aller voir pour vous rendre compte par vous-même, quoi.
Eh ben, avant de parler de la fac avec nos trois invités, on va s'écouter un petit morceau de Marvin. Voilà. À tout à l'heure, à tout de suite.
Thank you.
retour sur les ondes de Radio Audio. Bonjour tout le monde.
Voilà, bonjour. Donc comme promis, nous avons trois invités, donc étudiants grévistes de l'université Jean Monnet. Donc bonjour, pouvez-vous vous présenter ?
Donc Baptiste, je suis étudiant en histoire.
Bonjour, Raphaël, étudiant en mathématiques.
Rémi, étudiant en économie gestion.
Voilà, donc vous, vous êtes en grève à la fac depuis 4 mois maintenant à peu près. On en a parlé régulièrement, tant dans le numéro 0 que dans l'émission du lundi des mots des sons sensibles. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur ce mouvement de grève dans les universités, tant au niveau local que national ? Où en est-on ?
Eh bien, finalement, au niveau... ça, malgré tout, ça reste très mobilisé. Alors, il y a moins de blocages parce qu'on arrive à la fin de l'année, qu'il y a des fortes pressions au niveau du gouvernement, mais il y a toujours une volonté de résister face à ces réformes qui est très marquée. Il y a aussi la volonté de poursuivre au-delà de l'année universitaire, avec l'idée de continuer cet été et de reprendre encore plus fort à la rentrée.
Ok, et donc là, ça fait donc en gros 4 mois qu'en France, il y a des grèves dans plein d'universités, assez motivées et enthousiastes. Est-ce que il y a eu des avancées de la part du gouvernement, des réponses, ou est-ce que plutôt, ce qui me semble qu'on a vu, c'est des coups assez brutaux portés contre ce mouvement et beaucoup de surdité?
C'est clair, on peut parler de surdité, voire plus que ça. François Fillon déclarait que si jamais les facs avaient des problèmes, que les forces de l'ordre seraient ravies d'intervenir dans la fac. Une semaine après, elles intervenaient à Saint-Étienne, notamment. Et ils sont dans un rapport de force, véritablement, ils ne cherchent pas le dialogue. Après, les maigres avancées qu'on pourrait voir, c'est qu'ils ont été contraints par, techniquement, de les faire, comme des reports, parce que ça ne pouvait pas se faire, mais c'est tout.
Donc ils ont reporté des réformes ou des applications de réformes, quand même.
Ils ont étalé, parce que, par exemple, ils avaient passé de maquettes ou des choses comme ça. C'est plus ça qu'un véritable retrait.
Ok.
Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'interventions policières, ne serait-ce qu'en une semaine, il y a eu 25 interventions policières dans toute la France, dans toutes les facultés de France. Voilà. Donc évidemment, ça a détruit, ou au moins affaibli considérablement le mouvement de grève. C'est beaucoup plus difficile de bloquer une faculté quand les forces de l'ordre sont présentes à l'intérieur, évidemment.
Ok. Et quand même, à Saint-Étienne, les forces de l'ordre ont mis un bon moment avant de pointer le bout de leur nez dans la fac. D'abord, il y a eu des fermetures administratives qui n'ont pas réussi à étouffer le mouvement. Et donc là, plus récemment, la police est intervenue pour évacuer les gens, en gros. Donc comment ça s'est passé ? Comment ça s'est déclenché ?
Alors, on a organisé une AG, alors comme le souhaitait la présidence, comme le souhaitaient les anti-bloqueurs, parce qu'il y a eu une espèce de clivage bloqueur-anti-bloqueur, bon bref. Et on a organisé cette assemblée générale pendant une journée banalisée, justement, pour rassembler le plus de personnes possible. Elle a été annoncée par la présidence, donc reconnue, normalement. Cette assemblée a voté à la majorité le blocage, et la grève, bien sûr. Et le lendemain, donc, on a bloqué. La présidence a officieusement autorisé les anti-bloqueurs à débloquer manuellement. Ils ont tout fait pour qu'il y ait un affrontement entre les bloqueurs et les anti-bloqueurs. Ils ont refusé de fermer les portes, ils ont refusé de fermer les grilles. Et justement, pour pouvoir justifier l'intervention des forces de l'ordre, qui sont arrivées après les affrontements, à un moment où la situation était calme, et qui sont donc intervenus... alors qu'on ne voit pas pourquoi ils sont intervenus. Quoi. Ils sont restés aussi le lendemain. Alors ils sont restés le lendemain. Apparemment, il y a eu une blacklist de personnes qui se sont vues refuser l'entrée à la fac. mais aussi d'autres personnes qui se sont vues refuser l'entrée ben, au faciès. Il y a eu des contrôles toute la journée aux abords de la faculté, du site de Tréfilerie. Ben, par exemple, moi, je me suis fait fouiller outrancièrement et presque insulté par un agent de police. Et voilà.
Et ok, donc tout ça, c'était en fait pour permettre le lendemain de l'évacuation de la fac que les cours reprennent normalement. Ouais. Sous escorte policière.
Sous escorte policière.
Et est-ce que bah, les gens qui voulaient aller en cours sont retournés en cours au milieu des policiers ? Est-ce que les profs ont accepté de faire cours dans ces conditions ?
Alors, il y a des profs qui n'ont pas réfléchi, qui ont fait cours. Il y a des élèves qui ont fait pareil. Il y a des élèves qui ont été choqués par cette présence policière et qui ne sont pas allés en cours. Et d'autres profs qui ne sont pas allés en cours non plus, enfin qui n'ont pas tenu leur cours, de par la présence de la police. Et en assemblée générale du personnel, ils ont voté une motion comme quoi ils se mettraient en grève s'il y avait justement encore cette présence policière.
Et d'ailleurs, enfin, il y a ça, il y a aussi des étudiants qui, c'est pas forcément qu'ils voulaient pas aller en cours, qui étaient pas forcément grévistes ou bloqueurs, mais qui sont aussi vus refuser l'entrée par les policiers. Donc on parle de délit de faciès, on est vraiment là-dedans.
D'accord.
Pour avoir une idée, c'était quoi le faciès qu'il fallait pas avoir ?
Il fallait pas porter des vêtements qui fassent un peu trop de gauche. Il fallait pas avoir des cheveux longs quand on était un garçon, des genres de trucs comme ça. Il faut dire que oui, cette journée a été complètement incroyable. Il y avait des étudiants qui étaient poursuivis par des CRS dans les couloirs de la faculté, et pendant ce temps-là, des cours se tenaient. Et ils entendaient des CRS courir après des étudiants. Il y a des étudiants qui ont été parqués par les CRS. Il y avait des CRS qui servaient de dame pipi pour que les étudiants puissent sortir de leur territoire qui leur était attribué gracieusement, de manière à ce qu'ils puissent quand même aller aux toilettes et qu'ils revenaient dans ce territoire-là qu'ils n'avaient pas le droit de quitter. Ils étaient donc encerclés par les CRS. C'était complètement dingue.
Donc depuis, la fac n'est plus bloquée. Est-ce que les cours ont repris normalement, entre guillemets ? Est-ce que des gens sont toujours en grève ? Est-ce qu'il y a toujours des actions ? Est-ce qu'il y a toujours des flics dans les facs ?
Non, donc là, les flics sont partis de la faculté. Ils ont été remplacés juste après, en fait, par des vigiles qui sont là, qui ont refusé d'ailleurs de nous donner leur carte, enfin, de nous montrer leur carte, qui ont refusé de nous dire de quelle société ils étaient. Et ces vigiles se sont même montrés plutôt véhéments envers certains étudiants et étudiantes. En particulier, un mardi matin, il y a un étudiant qui portait un sac de livres. Le vigile l'a arrêté pour lui demander ce qu'il y avait dans son sac. Là, l'étudiant a refusé plus ou moins de lui montrer en disant qu'il avait le droit d'avoir ce qu'il voulait dans son sac, sachant que dans son sac, il n'y avait que des livres. Le vigile l'a pris par la main et ne voulait plus le lâcher. Là, une étudiante filmait la scène. Le vigile a donné un coup. Le téléphone portable est tombé par terre. Le vigile a pris les trois doigts de l'étudiante et l'a obligée à s'agenouiller par terre. Et quand une autre étudiante a voulu intervenir, elle s'est fait prendre une clé de bras et a été étranglée par le vigile. Tout ceci devant les yeux de la présidence. Et nous, en tant qu'étudiants, on ne pouvait même pas agir parce que les autres vigiles nous empêchaient d'approcher et nous ont plaqués contre le mur. Y a plusieurs personnes administratives qui ont vu la scène, qui n'ont rien contesté et qui n'ont dit que c'était qu'une conséquence du référendum de la veille. Alors le référendum de la veille, très rapidement, il y a un référendum qui était organisé par la présidence. Ce référendum était complètement scandaleux. La question était outrancière. La question était, je ne caricature à peine, c'était... Est-ce que vous voulez valider votre année, en gros ? Donc évidemment, tous les étudiants auraient répondu oui. Donc ce référendum aura voté à 90% le fait que les étudiants voulaient valider leur année, ce qui est complètement dingue. Donc d'après ce référendum, pour eux, il était normal que les vigiles s'attellent à des violences policières. Voilà.
D'accord.
Ce qui est plutôt décalé. Donc actuellement, les cours ont repris sur le site de Tréfilerie. Nous organisons quand même des actions. Nous nous réunissons entre grévistes pour prévoir des actions. Il y a l'Université solidaire qui fonctionne encore. L'Université solidaire, il y a tout le programme du mois de juin qui sera normalement disponible bientôt sur le site UGM en lutte. Il y a une projection qui est prévue. Tout le monde est invité et tous ceux qui veulent, même si vous êtes extérieur à la fac, vous pouvez venir. Vous êtes les bienvenus, donc il y a une projection qui est prévue sur le site de Tréfilerie à 18h30, c'est les invasions barbares À 21h, excusez-moi, c'est les régions barbares et c'est mardi. Et sinon, il y a une conférence sur le traité d'archéologie, qui est une référence à un tag qui a lieu sur le site de Tréfilerie. Et donc, c'est jeudi à 18h30, donc c'est aussi sur le site de Tréfilerie, et ça promet d'être plutôt intéressant. Donc vous pouvez vous y rendre, et il y a tout programme du mois de juin qui sera disponible bientôt, normalement, sur le site UGM en lutte.
Ok, ou sinon, est-ce que, par exemple, on peut passer directement à la fac et rencontrer des grévistes dans un point spécifique, dans un endroit spécial ou...
Bien sûr, donc vous pouvez passer, y a souvent des grévistes en HR1, et donc il n'y a pas de souci, la fac est ouverte encore pour tout le monde, et donc vous pouvez venir, ce sera avec plaisir.
Je voulais juste revenir sur le référendum, qui ça a été relayé le lendemain dans la tribune Le Progrès, et dont on a dit que c'était un référendum démocratique qui respectait les valeurs républicaines. Alors voilà, les valeurs républicaines, merci. Plusieurs étudiants se sont vus refuser l'entrée aux urnes. Et d'autres se sont fait sortir des isoloirs. Enfin, c'était n'importe quoi.
Et c'était là aussi les vigiles qui faisaient la loi en disant « toi tu rentres pas, eux ils peuvent rentrer, eux ils sont 5 qui rentrent, toi t'es seul, tu rentres pas. » Et oui, c'était plutôt...
Et par la suite, à l'Assemblée Générale des Personnels, les profs ont voté une motion en disant que cette question était bidon. Ils n'ont pas trouvé d'autres mots pour le dire.
Ouais, donc en fait c'était un peu comme une espèce de mascarade médiatique pour... essayer enfin de trouver un prétexte pour que le mouvement de grève s'arrête, quoi.
Bien sûr. Il y a eu toute une mise en place du gouvernement de plein de techniques pour arriver à ce que le mouvement de grève s'arrête. Il y a eu la création donc, d'un référendum, il y a eu l'intervention policière, il y a eu la création de CVU, donc des organes qui étaient censés, de CVU exceptionnels qui étaient censés permettre le retour à court, même s'il y aurait quelques journées banalisées. Pour permettre quelques mobilisations, le but était de retourner massivement en cours. Et donc tout a été mis en place par le gouvernement et donc par la présidente de l'université pour permettre l'arrêt du mouvement de grève.
Ok. Et là, donc on a appris récemment, je crois même que vous l'avez appris par les journaux ou un peu par hasard, que des plaintes avaient été déposées de manière nominative contre des grévistes.
Oui, il y a eu des plaintes qui ont été déposées ou par l'université ou par des personnes physiques. C'est des plaintes qui sont complètement... Enfin, c'est absurde, les motifs de plainte. C'est... Voilà.
Alors, il y a une plainte pour tentative d'incendie par un jet de mégot. des trucs débiles, quoi.
Une bouteille d'eau qui aurait brisé une arcade sous sourcilière, les petites bouteilles d'eau en plastique... à moitié vide. Donc on est plus dans des tentatives d'intimidation des personnes du mouvement, comme on en a, enfin, comme on en a beaucoup, beaucoup en ce moment. Je suis en train de penser, par exemple, pas plus tard que ce matin, il y a eu un étudiant gréviste qui s'est fait refuser de pouvoir faire ses partiels. Là encore, c'est des tentatives d'intimidation et de parquage.
Justement, tant sur le côté des plaintes, donc des plaintes déposées auprès de la police, que du côté des espèces de punitions pédagogiques, est-ce que ça mine complètement les gens? Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'il y a des réactions collectives face à tout ça?
Notre but au niveau de ces plaintes, c'est de rester unis le plus longtemps possible et de soutenir tous les gens qui seraient interpellés par ces plaintes-là. On essaye d'obtenir le retrait des plaintes, mais c'est pas quelque chose de très facile. Donc on prévoit de se réunir et on prévoit de créer une sorte de collectif pour se réunir même pendant l'été s'il y a des gens qui sont interpellés pendant l'été et qui doivent se présenter au commissariat. Donc nous restons mobilisés et nous espérons même que la mobilisation reprendra en septembre. Et de toute façon, vu l'état du mouvement à Tréfilerie, on pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Nous sommes nombreux et nous sommes assez déterminés.
Qui porte plainte exactement ?
Donc c'est souvent l'université qui porte plainte. Il y a une personne qui a porté plainte seule pour le jet de bouteille d'eau. Et c'est l'université, par exemple, qui porte plainte pour le jet de mégot. L'université est obligée de porter plainte aussi pour toutes les dégradations qui ont lieu. Donc c'est des plaintes sous X. Voilà. Et il y a une plainte qui a été aussi lancée des grévistes contre... Enfin, 2-3 étudiants grévistes contre les vigiles, vu les violences que je décrivais tout à l'heure.
Il y a une plainte aussi qui a été déposée pour effraction.
Oui, une plainte qui a été disposée pour effraction.
Et puis sans compter les menaces du recteur, voilà, on a tous reçu sur notre BVRA, notre bureau virtuel, un communiqué du recteur d'académie qui dit qu'il y aurait des sanctions non seulement judiciaires mais aussi disciplinaires pour les étudiants grévistes ou bloqueurs, je ne sais plus.
Ok, donc vous restez mobilisé pour faire face à toutes ces situations collectivement.
Oui.
Ok. D'autres questions? Ou avez-vous autre chose à rajouter?
Il est peut-être à noter qu'il y a une grosse désinformation médiatique. Mmh. On a parlé de l'arsenal policier, de l'arsenal administratif qui était mis en place pour essayer de calmer le mouvement de grève. Mais il y a un gros arsenal médiatique. Quand on parlait de la Une du Progrès qui titrait en gros 90% des étudiants veulent retourner en cours alors que le référendum était complètement bidon. Il y a même notre président de l'université qui utilise des moyens qu'il a en sa position comme pouvoir diffuser sur toutes les boîtes mail des étudiants en disant par exemple qu'il n'y a pas eu de violence perpétrée par les vigiles alors qu'on l'a vu, lui il n'était même pas là, nous on l'a vu, et donc il ose dire qu'il n'y a pas eu de violence, ce qui est complètement scandaleux.
Ou alors qu'il n'y a pas eu de blacklist aussi.
Qu'il n'y a pas eu de blacklist, tout à fait. Donc voilà, on a l'impression que la médiatisation est vraiment contre nous. On parle très très peu des réformes. Quand on parle des étudiants bloqueurs, on parle d'une minorité violente, très déterminée, et qui aurait un canif entre les dents et qui voudrait égorger tout le monde. À Saint-Étienne, on se revendique être un mouvement plutôt pacifiste. Il n'y a aucune violence qui a été portée par nous, et plutôt par notre camp adverse d'anti-grévistes qui veulent absolument nous faire la peau. Voilà.
Ouais, et justement, un truc auquel je pensais tout à l'heure, est-ce que vous savez comment se fait-il qu'il y ait des plaintes nominatives? C'est-à-dire comment ils ont décidé qu'ils allaient porter plainte contre telle personne ou tel nom?
En fait, contre les soi-disant leaders du mouvement, en fait. Bon, c'est pour casser le mouvement, ça on le sait. Et donc c'est contre les soi-disant leaders parce que il y a des gens contre qui l'université a porté plainte et qui n'étaient même pas présents au moment des faits.
On sait que aussi à Lyon 2, ils ont fiché les étudiants. Par ailleurs, vous pensez que c'est le cas ici ou bien?
Sûrement, parce que il y a eu aussi une présence. Il y a une présence des renseignements généraux sur le site, enfin aux abords du site, on les reconnaît maintenant.
On les connaît.
Non, mais là, à Lyon 2, c'était un fichage par l'université, donc pas par la police, avec des photos, et c'était les vigiles en question qui prenaient les photos, qui prenaient les renseignements.
À ce propos, il y a eu des étudiants qui se sont fait prendre en photo en pleine rue, sur le trottoir, par des membres de l'administration. Alors qu'ils n'avaient rien demandé. Maintenant, c'est fort possible qu'un fichier comme cela existe, mais on ne l'a pas vu forcément. C'est assez
dur. Et le président le dément.
Et si on pouvait le récupérer, ce serait plutôt pire. Est-ce qu'on pourrait porter plainte pour lutte contre les discriminations, en fait?
Ok. Mais ce ne sont que des soupçons pour le moment, quoi.
Oui.
Ok, est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose?
Peut-être revenir sur l'université solidaire. Donc, ouais. Vous pouvez, bien sûr, tout le monde peut venir à l'université solidaire. Donc, mardi, 21h, la projection des inventions barbares. Jeudi, il y a un traité d'archéologie qui parle d'un des tags qui a lieu à Tréfilerie et qui analyse la vision des ours. Et il y aura tout le programme qui sera disponible sur UGM en lutte prochainement. Donc, le site UGM en lutte, vous tapez UGM en lutte sur un moteur de recherche et vous le trouverez.
Ok, donc l'université solidaire, c'est un projet qui existe depuis le début de la grève, qui consiste en des rencontres ouvertes à tous et toutes, des débats, des films, des ateliers et tout.
Oui, ça se veut un peu décalé, et on essaie que ce soit pas récupéré par la présidence, ce qu'ils essaient de faire actuellement. C'est une des plus belles initiatives qui a eu lieu dans ce mouvement, et c'est quelque chose plutôt joli. On met en place des débats, on met en place des interventions de professeurs. Voilà. Et on veut aussi ouvrir l'université au monde et à la ville en général. Donc tout le monde peut venir.
Et c'est bien la preuve que le mouvement n'est pas mort et qu'on reste mobilisé, puisque cette université solidaire, elle continue malgré tout. Et il y a des diffusions qui sont programmées. Et elle continuera très certainement à la rentrée prochaine aussi.
Ok. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Il ne reste qu'à vous souhaiter de bien continuer ce mouvement. Et puis, j'espère qu'on aura de quoi en reparler toutes les deux semaines, comme on le fait depuis 4 mois déjà.
Ouais. Voilà. Bah, merci beaucoup à vous de nous avoir accueillis et de nous avoir pu permettre de dire ce qu'on avait à dire d'important.
Et on reviendra avec plaisir.
Ok.
Eh ben, on se retrouve dans un tout petit instant pour retrouver l'agenda du numéro 0. Allez, alors, le petit agenda de l'émission du numéro 0, et ben, c'est parti.
Alors, on commence tout de suite le vendredi 29 mai à 18h au local La Dérive. Il y aura un petit marché paysan organisé par la coopérative Le Cabanoir. Si vous ne les connaissez pas, Le Cabanoir est une coopérative de produits bio et machin, avec l'idée derrière d'essayer d'être un moment de rencontre entre les consommateurs et les producteurs. Tout ça dans un bon esprit, à la bonne franquette. Du coup, marché paysan, le vendredi 29 mai à 18h, au local La Dérive, 31 rue Basse Dérive à Saint-Étienne.
Très très bien.
Donc, toujours à La Dérive. Donc La Dérive, c'est un espèce de local qui accueille plusieurs associations et collectifs et qui est autogéré. Donc à La Dérive, il y aura une soirée de soutien organisée par le collectif Sans Papiers de Saint-Étienne. Donc ce sera le samedi 6 juin à partir de 18h. Il y aura une bouffe prix libre avec des spécialités africaines, les projections de 2 films. Donc, il y aura un documentaire sur la grève des ouvriers de Margoline. Donc, ça date de 1973. Et c'est sur, en fait, la première grève victorieuse des sans-papiers en France. Donc, c'était dans l'entreprise Margoline à Nanterre et à Gennevilliers. Voilà. Donc, les ouvriers, en fait, parlent de leur grève. Et puis, un autre film sera projeté, c'est Jusqu'au bout, qui date de 1975. Donc, c'est sur une grève de la faim entamée par 56 travailleurs tunisiens à Ménilmontant. Donc, c'était aussi la première de ce type en France. Voilà. Ces projections, à mon avis, ça va être très intéressant. Et ensuite, eh ben, il y aura de la musique tradie moderne du Bas-Congo. Et le groupe, s'appelle Azanga Mutu. Donc voilà, ce sera un concert d'Azanga Mutu. Ça veut dire l'homme sans tête. Et enfin, une boum avec des DJ ou un DJ. Donc tout ça, c'est le samedi 6 juin à 18h à La Dérive. Donc toujours 31 rue Basse des Rives. Et c'est organisé par le collectif Sans Papier et en soutien au collectif Sans Papier à partir de 18h.
Mmh. Ouais, on peut rajouter, rappeler que le camp No Border à Calais se tiendra du 23 au 29 juin, que c'est bientôt là, qu'il faut se précipiter pour organiser les choses. Voilà. Et est-ce que on peut rappeler aussi l'adresse mail de l'émission si vous voulez nous écrire pour nous insulter ou pour nous donner des infos. Donc c'est emissionradio@fastmail.net. Voilà, emissionradio@fastmail.net. Ou alors écrivez-nous à Radio Audio.
Il y avait un truc le 9 juin aussi.
Ouais, oui, oui. On m'entend là ? Ah oui, oui, on m'entend. Oui, le 9 juin pour continuer. Donc c'est mardi, je crois, 9 juin. Ouais, c'est ça. À la fac, tout à l'heure, on parlait de l'agenda, vite fait un peu de l'Université solidaire de la fac Tréfilerie. Eh bien, le 9 juin se tiendra une réflexion de gréviste à 18h30. Et ce sera sur le thème, ce sera sur le retour en fait des fameuses élections dites démocratiques en Algérie. Et voilà, et cette réflexion de gréviste sera suivie d'une projection à 21h, 21h30 d'un film qui se nomme Quemada, avec ce merveilleux acteur qui est Marlon Brando. Et c'est un film, une fiction, mais qui rappelle beaucoup d'événements sur la colonisation des îles, etc., etc. Voilà, ce sera le mardi 9 juin. Voilà.
Voilà, et pour une fois qu'on a un tout petit peu le temps, on peut rappeler que le numéro 0, c'est aussi un site internet sur lequel vous, toi, moi, pouvez publier vos propres informations, tant qu'elle rentre dans le cadre d'une charte qui est quand même assez ouverte. Voilà, donc vous pouvez publier vous-même vos infos, et c'est le but. Et nous, des fois, on les relaie après à la radio. Donc là, l'émission radio, c'est un jeudi sur deux, voilà, sur Radio Audio, à midi, et rediffusée à 17h.
Et l'adresse du site, c'est le numéro 0 tout attaché .l'autre.net.
Voilà.
Et tant qu'on y est, moi je me dis qu'on peut annoncer que peut-être, là encore on en est au stade du peut-être, mais que la prochaine émission parlerait peut-être du RSA, et que si vous avez des témoignages, des idées, que vous avez envie de participer à cette émission-là avec des idées, des propositions de thèmes, de sujets, d'expériences ou de trucs comme ça, et n'hésitez pas à nous contacter par le biais de l'adresse mail emissionradio@fastmail.net. Et voilà, voilà.
À bientôt.
Eh bien voilà, donc rendez-vous dans 15 jours. N'oubliez pas, cette émission est rediffusée à 17h. Et donc si vous écoutez cette émission, cette rediffusion, il est bientôt 18h et c'est bientôt l'heure de retrouver l'émission Cargo. Cargo.
Allez, bonne nuit.
Ciao.
Je me rappelle d'une époque pas si lointaine que ça. À l'heure où je l'évoque, elle reflète en quelque sorte l'évolution du monde il y a quelques années de ça. À défaut de révolution, on a accepté ce sort. Quelle que soit la fin, elle justifiait tous les moyens. Afin que le citoyen ivoirien, l'idée avait été planifiée sur le lointain. Car quand il est brutal, inacceptable, peut horrifier, et on l'accepte moins bien. Peu à peu se modifier la vision qu'on a de l'être humain. En secret, certains se disaient, et si on allait plus loin? Même en pays civilisé, les libertés se réduisaient, comme si les droits de l'homme vieillissaient, et qu'on n'en avait plus besoin. Plus le terrorisme sévissait, et plus on tapait du poing. L'émotion télévisée, dans l'opinion, ça faisait des points. Beaucoup se sont laissés griser par l'ambition de sécurité, à tel point qu'on a dérivé vers un monde pressurisé, supervisé par la science du fric. Toutes les avancées économiques n'étaient qu'à sens unique. Ce serait insensé de le dire en public. Mais il s'agissait de rabaisser les niveaux de vie au profit d'une élite vampirique. De plus en plus petite, mais de plus en plus riche. Tant pis pour les plus petits, seul le plus grand dirige. Ça ne date pas d'hier. Ça, on l'a toujours dit, mais ça n'était qu'un stade primaire. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. L'homme d'aujourd'hui, on le laisse toujours vivre. À condition qu'il suive à la lettre les directives. Qu'il qui acceptent qu'on le suive à l'aide de la puce qu'ils gardent sous la peau. C'est plus qu'il n'en faut pour les parano qui leur gardent tout là-haut. Son comportement est constamment analysé, au moindre écart pénalisé par une décharge dans ses neurones. On surveille son coefficient de normalité. Malgré qu'il ne soit pas criminel, l'idée c'est qu'il pourrait tôt ou tard endosser ce rôle. Ce qui est drôle, c'est que la criminalité continue d'augmenter. Difficile de l'arrêter avec autant de précarité. Sans parler d'inégalité, puisqu'au même niveau de pauvreté, tous les êtres ont été alignés. Bien trop faibles en fait pour s'indigner de ce qu'on a pu faire de notre belle planète un enfer. Contaminé comme l'air de mauvaise qualité qu'il est contraint d'habiter. Sous terre, l'eau potable quant à elle s'est tellement raréfiée qu'à terme, il a fallu la fabriquer artificiellement. On espère que ça n'est pas risqué, comme ça se dit officiellement. Mais on a déjà oublié l'enseignement tiré de ces aliments que l'on modifiait anciennement. Ce qui fait que maintenant, la nature est dépassée. Elle a perdu ses repères et l'être humain est déphasé. Sur les fœtus sont nos pères pour en faire des esclaves nés. Plus de mère ni de père, le naturel est écarté. Tout nouveau-né doit être parfait, c'est la loi qui l'impose. Comment cette loi est-elle passée à coups de morale et de belles proses? Mais où est donc passée cette foutue démocratie? On s'en est débarrassé car elle était trop fragile.